Et en plus, il dit ce qu'on est en train de faire. Il dit qu'on est en train de garder la parole dans notre cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Alors ce soir, nous allons continuer dans le livre de Samuel, l'histoire du roi David. Et nous allons atteindre le chapitre 25. 1 Samuel 25. Je ne traite pas le passage dans la caverne parce que j'ai déjà plus ou moins mentionné que David a été extrêmement gracieux envers le roi Saül. David s'est caché dans la fameuse caverne d'En-Gedi et là, avec tous ses hommes, il cherchait à fuir Saül et son armée. Et il s'est avéré que Saül est allé se reposer dans la caverne pendant sa chasse à l'homme, ne sachant pas que David s'y trouvait. Et David, au lieu de l'éliminer, alors qu'il était vraiment sous sa coupe, il aurait pu le tuer en cachette. Il n'a pas porté la main sur Saül. Il a dit, c'est loin de Dieu, c'est l'homme qui avait été choisi comme roi. Je ne porterai pas la main sur lui. Et donc, il a une attitude extrêmement respectueuse de Dieu, des oins, de ceux qui sont choisis par Dieu, et en particulier du roi, même si ce roi est rejeté, même si ce roi veut l'assassiner, veut le poursuivre de sa haine, David ne touche pas à Saül. Et nous arrivons au chapitre 25, avec l'histoire de Nabal. Le chapitre commence avec la mort du prophète Samuel, qui va être un grand vide, laisser un grand vide en Israël. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Ce livre suit l'époque des juges. Samuel était en quelque sorte le dernier juge. Il était celui qui dirigeait ou donnait des conseils au peuple juif à travers la prophétie, les prophéties qu'il recevait de Dieu. Et c'était le rôle des juges en Israël d'être des sortes de gouverneurs qui étaient envoyés par Dieu pour consoler Israël, pour les protéger, les délivrer des ennemis. Samuel était un très grand prophète. Il a probablement écrit les livres de Samuel. C'est pour ça qu'ils sont appelés 1 et 2 Samuel. Mais il n'a pas forcément écrit 2 Samuel puisqu'il était mort. Mais Samuel a laissé un vide parce qu'après le juge, c'est l'époque des rois. Il y a d'abord les juges et puis ensuite Israël dit « Nous voulons un roi comme les autres. On ne veut pas de juge, on ne veut pas de prophète, on veut quelqu'un qui règne. » Ils ont eu Saül qui a été une catastrophe. Ils auront David qui va être un grand roi, Salomon qui va être un assez grand roi, mais qui va commencer déjà à descendre moralement. Et puis après Salomon, ça va être à nouveau la catastrophe. Avec des hauts et des bas, des bons rois, des mauvais rois. La plupart seront mauvais, en Israël surtout, en Juda un peu moins. Mais cette mort de Samuel est terrible parce qu'ils perdent quelque part leur papa, leur grand-père, qui, de la part de Dieu, donnait des conseils sages. Maintenant, ils vont avoir des rois et les rois exigent des impôts. Les rois vous envoient à la guerre. Les rois sont impitoyables et c'est une autre façon de gouverner un roi. Il y avait à Mahon un homme fort, dit le passage, fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. » Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Donc, c'était un grand propriétaire de brebis, hein, 3000 brebis, c'est énorme. Le jour de la tonte, c'est un jour de fête. Pourquoi ? Ben, pourquoi ? Oui, c'est une forme de récolte. Hein. C'est comme la moisson pour l'agriculteur, mais là, c'est la moisson de la laine. Ça veut dire beaucoup d'argent, puisque la laine va être vendue. C'est l'accomplissement. Pourquoi ils élevaient des brebis ? C'était apparemment en grande partie pour la laine et puis le reste pour la viande, peut-être pour des sacrifices. Mais en tout cas, c'était un jour de fête. Les tondeurs venaient, on faisait des méchouis, on faisait des repas, on dansait, on chantait. C'était une grande fête, la tonte des brebis. Ça existe encore aujourd'hui au Moyen-Orient ou dans les pays, même en Grèce. Lorsque le berger fait tondre ses brebis, il fait un grand festin. Il invite tout le monde et on fait la fête. Et donc, David envoie des jeunes hommes, des jeunes soldats, enfin, parmi ces vaillants hommes, pour lui dire, écoute, nous, on a protégé tes bergers. On les a gardés, on les a protégés contre les pillards, les bêtes sauvages, contre tes brebis ont été saines et sauves, tes bergers aussi. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un peu à manger ? Pourquoi ils demandent, enfin, un peu de choses à manger, de biens matériels ? Parce que David était en fuite avec ses hommes, il était en perpétuelle fuite, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de biens, pas de moyens de soutenance, de sustenance. Et donc, il avait besoin d'aide. Il était un peu un mendiant, là, pour ses hommes. Et il dit, écoute, nous, on t'a rendu un grand service en te protégeant. Est-ce que tu peux nous rendre la monnaie ? Est-ce que tu peux, gracieusement ? Et il dit, hein, à ton fils David, hein, il est très respectueux de Nabal. Il dit, je suis ton fils, voilà, veux-tu nous aider ? Ils font leur annonce et ils se taisent. Nous sommes au verset 10. Nabal répondit au serviteur de David. « Qui est David ? Et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Voilà donc le début hein, de ce chapitre qui va nous révéler un homme borné, un David enragé et une femme, Abigaïl, qui sort du lot par sa sagesse et son courage. On a tendance à dire que l'Ancien Testament est plutôt machiste, que les femmes n'étaient pas très bien considérées en Israël. C'est vrai dans un certain nombre de cas, mais dans la Bible, ce n'est pas forcément vrai. Il y a plusieurs femmes très importantes dans la Bible. Hein, je citerai, par exemple, Esther, Déborah, Ruth, hein, voilà, Ève, même si elle n'est pas connue pour des bonnes choses. Pardon ? Voilà. Et les femmes jouent évidemment un rôle essentiel dans la vie. Elles sont pas, elles n'ont pas un rôle inférieur. Elles ont été créées semblables à l'homme. Et c'est normal qu'on les retrouve dans la Bible. Et Dieu ne demande pas aux femmes d'être éteintes, d'être complètement absentes et de laisser l'homme tout faire. On voit que la femme a un certain rôle à jouer. Ici, Abigail va jouer un rôle très courageux et très sage face à la colère de David. Mais j'aimerais d'abord parler de Nabal. Son nom en hébreu veut dire imbécile, idiot, hein, stupide, insensé. Et il portait bien son nom. Les Hébreux donnaient des noms au bout de quelques jours à leurs enfants. C'était après la naissance qu'on donnait le nom. Et souvent, il y avait un côté prophétique dans le nom. Notre Seigneur est appelé Jésus, qui veut dire sauveur ou Dieu sauveur. Dieu nous sauve. Hein, et c'est vrai parce que notre Sauveur est Dieu venu nous sauver en personne, par sa mort et sa résurrection. Eh bien, lui, il s'appelait imbécile et il a agi comme un imbécile. C'est pas parce qu'il s'appelait imbécile qu'il était imbécile, hein, mais c'était, je pense, prophétique. Et cet homme a l'air presque caricatural, mais il y en a beaucoup comme lui, malheureusement, dans le monde. Quelles sont ses caractéristiques? Il est très avare, déjà. Il ne veut pas donner un bout de pain ni rien du tout aux soldats de David, aux hommes de David. Deuxièmement, il est très arrogant et très orgueilleux. Il considère que ces gens-là, ce David, je ne sais pas qui c'est, hein, fils d'Isaïe, c'est qui? En fait, il le connaissait bien. Il dit, qui est le fils d'Isaïe? Donc ça montre bien qu'il le connaissait, mais c'était une façon de dire d'où il sort, qu'est-ce qu'il veut. Il y a beaucoup de serviteurs qui fuient leur maître. Sous-entendu, s'il fuit son maître, c'est qu'il a des choses à se reprocher. Et vraiment, il attaque la moralité, là, on peut dire, de David, comme si David était un méchant serviteur fuyard et que Saül était le bon maître qui devait le punir. Et il se met clairement du côté de Saül dans cette histoire. Hein. Et au lieu d'aider David, qui est le futur roi d'Israël, et c'est assez connu quand même, Samuel l'avait oint comme roi, et un certain nombre de gens dans le royaume savaient que David était le roi qui remplaçait Saül. Mais lui, il refuse d'admettre cela. Et il est totalement borné, on va le voir encore. On n'osait même pas lui parler, hein, dit le verset 17, c'est-à-dire il était tellement borné, tellement dur, impitoyable, radin, que c'était même pas la peine de commencer un argument avec lui, on savait que ça allait mal finir. Je pense que sa femme avait dû souffrir un certain nombre d'abus et de choses difficiles avec une personne comme ça, colérique et surtout qui est du mauvais côté spirituel. Hein. Nabal ne marchait pas avec Dieu, ne craignait pas Dieu, ne croyait pas au roi David, au Messie, et il n'a pas consulté Dieu. Lorsque les soldats de David sont venus, il ne s'est pas dit, bon, quelle est la situation? Seigneur, que dois-je faire? Moi, il aurait pu se poser la question, mais non, il dit, mais pas question que je donne rien. Alors qu'il y avait eu une vraie aide de la part des hommes de David, il avait vraiment aidé ses bergers. Donc, il aurait pu avoir une once de reconnaissance, mais il n'avait même pas ça dans son cœur. Son cœur était totalement sec, stérile, fermé aux autres. Y a des gens comme ça qui sont complètement bornés dans leurs idées. Et ils disent hein, mon pain, mon eau, voilà, ils sont égocentriques, centrés sur eux-mêmes. Ils refusent de partager ce que Dieu leur donne. Ils considèrent que tout ce qu'ils ont, c'est à eux. Alors que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a confié. Même notre vie, même notre santé, même nos biens matériels nous sont confiés pour qu'on les utilise pour la gloire de Dieu. Cet homme considérait que tout lui appartenait. Il nous fait penser à un homme d'une parabole dans les évangiles. À qui il vous fait penser? Voilà, exactement. Luc chapitre 12, verset 16. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. et il raisonnait en lui-même. Voilà, au lieu de prier, de remercier Dieu, il raisonne en lui-même. Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte, tellement elle était abondante. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme, justement, te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cet homme n'est pas reconnaissant à Dieu. Bon, c'est une parabole, mais ça fait penser à des faits réels, hein. C'est quelqu'un qui a des terres, il a des greniers dans lesquels il amasse son grain. Et cette année-là, Dieu lui donne plus, parce que c'est Dieu qui lui donne plus. Alors, il n'arrive plus à tout rentrer dans ses greniers. Alors, au lieu de se dire, bon, ben, j'ai trop, je vais partager, je vais donner mon trop-plein à ceux qui sont dans la famine ou dans la pauvreté, qui n'ont pas eu assez cette année. Il y en a peut-être d'autres un peu plus loin qui n'ont pas eu assez. Je vais donner mon surplus. Non, qu'est-ce qu'il dit? Je vais détruire mes greniers, je vais faire des plus grands et je vais tout amasser et je vais jouir de ma richesse. Et il pense qu'il maîtrise tout. Parce qu'il fait ses plans, ses projets, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, et je vais dire à mon âme, repose-toi, c'est-à-dire c'est un peu le gagnant du loto, hein. Il quitte son patron en disant bye bye, je démissionne, et il vit sur ses rentes. Ça me fait penser à ce gagnant du loto, je crois que c'était en Allemagne récemment, qui a tellement dépensé son million gagné au loto dans les casinos, dans une vie totalement débridée, délurée, dans le jeu, l'alcool, la drogue, etc., qu'au bout de 2-3 ans, il n'avait plus un sou et il s'est retrouvé mendiant dans la rue. Il n'avait pas compris que lorsque Dieu nous donne, il faut l'utiliser avec sagesse, il faut le remercier et il faut partager. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, hein, où il parle des Macédoniens qui sont pauvres, mais qui pourtant vont aider les chrétiens de Jérusalem qui sont dans une pleine famine. Il dit, ils sont pauvres, mais ils vont aider quand même. Mais il dit, attention, que ce soit votre superflu qui vienne en aide. C'est-à-dire, ne vous mettez pas en détresse pour aider quelqu'un d'autre. C'est pas ce que Dieu demande. Mais Dieu vous donne toujours plus. C'est ça qu'il dit en 2 Corinthiens 9. Hein. Dieu vous donnera toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, afin que vous ayez toujours ce qu'il faut, et il dira même au-delà pour satisfaire à toute bonne œuvre. C'est-à-dire Dieu nous donne plus que ce que nous avons besoin pour le partager. Cet homme de la parabole, lui qui pensait tout mépriser, Dieu lui a dit le soir même, ton âme, c'est l'heure. Tu ne maîtrises pas ta mort, tu ne maîtrises pas ta vie. Et puisque tu es totalement ingrat avec ce que je te donne, je reprends ta vie, je reprends ton âme. Et cet homme était un insensé, était un stupide, était un Nabal aussi, hein, parce qu'il ne remercie pas Dieu pour ce qu'il a. Nous sommes dans une société de consommation, de matérialisme, nous sommes dans un pays relativement riche, malgré les difficultés économiques, même s'il y a de plus en plus de véritables pauvres, hein, en France. Mais par rapport à d'autres pays, franchement, on peut remercier Dieu. À nous d'utiliser notre surplus. À nous d'être généreux, de ne pas être égoïste, de ne pas dire « Ah, je suis riche, c'est merveilleux, je vais en profiter, je vais me régaler. » Mais de penser que nous sommes responsables de ce que Dieu nous confie pour le gérer. Nous sommes des gestionnaires des biens de Dieu. Et même de notre corps, de notre vie, de notre famille. Nabal, en fait, c'est celui qui est incroyant, qui est incrédule, qui ne reconnaît pas Dieu dans sa vie, qui n'est jamais content, toujours irrité. Hein. Nabal était un homme colérique qui n'était jamais content. Toujours, il devait critiquer, il devait se plaindre. Et pourquoi si, pourquoi on me demande ça? Et moi, je n'ai rien demandé. Qu'est-ce qui vient de m'embêter à me demander quelqu'un qui ne connaît pas la paix, Quelqu'un qui ne connaît pas la satisfaction de l'âme. Quelqu'un qui ne connaît pas le contentement qui vient de la foi. C'est quelqu'un qui est avare, qui est radin. David, en apprenant que Nabal lui a manqué de respect, de courtoisie, saisit son épée et 400 hommes et il marche contre la maison de Nabal. On vient prévenir Abigaïl, pourquoi? Parce que David va tuer tout le monde là. Il va tuer Nabal, il va tuer les serviteurs, il va tuer la femme, il va tuer tout le monde. Alors, je me suis posé la question. Ce David qui avait épargné le méchant Saül dans la grotte, au chapitre précédent, comment d'un seul coup devient-il un homme plein de rage qui va tuer plein de gens parce qu'ils lui ont manqué de respect? Est-ce que ce n'est pas un défaut? Mais en y regardant de plus près, son action peut être justifiée dans l'Ancien Testament. C'est que David est le roi. Il est le représentant de Dieu. Il est l'héritier du Messie à venir qui va régner sur la terre. Manquer de respect envers Dieu, envers le Messie, c'est s'exposer à la condamnation à mort. Et cette justice qu'il va rendre est juste et vient de Dieu parce que cet homme Nabal s'est opposé au plan de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, la justice tombe sur terre. Avec la venue du Seigneur Jésus, les choses ont changé pour un temps. La Bible dit que Jésus est venu non pas avec la loi, mais avec la grâce. Et Jésus est venu apporter le pardon, la réconciliation avec Dieu. Il n'est pas venu pour juger. Il dit « Je ne suis pas venu pour juger ». Lorsque ses disciples, qu'on ne recevait pas dans un certain village, ont dit à Jésus « Est-ce qu'on doit faire tomber le feu du ciel ?» comme Élie l'avait fait dans l'Ancien Testament, Jésus a dit « Non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Je suis venu pour sauver ». Nous sommes dans la nouvelle alliance où Dieu est patient, Dieu est longanime, Dieu est miséricordieux, Dieu est gracieux. Il était déjà dans l'Ancien Testament, mais là, depuis la venue de Jésus, c'est absolu, c'est extraordinaire. Mais la Bible dit aussi que tous ceux qui sont ingrats vis-à-vis de cette bonté de Dieu, de cette patience de Dieu, eh bien je lis en Romains chapitre 2, verset 5, « Par ton endurcissement, et par ton cœur impénitent, c'est-à-dire qui refuse de se repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » C'est que ceux qui aujourd'hui méprisent Jésus, disent « Qui est ce Jésus-là dont tu me parles ? Qu'est-ce que j'ai à faire de Jésus ? Il est mort il y a 2000 ans sur une croix, j'ai autre chose à faire, écoute. » Moi, j'ai ma vie, j'ai de l'argent à gagner, j'ai des vacances à passer, je veux m'amuser, je veux vivre dans le péché comme ça me plaît. Ne venez pas m'embêter avec votre évangile, votre Bible et votre Jésus. Ces personnes-là réagissent comme Nabal, comme des insensés. Et ils amassent un trésor de colère. Chaque péché est amassé, chaque offense contre la grâce de Dieu est amassée. Il est dit qu'on ne peut pas outrager le sang de Christ, on ne peut pas fouler aux pieds le fait que Christ soit mort pour nos péchés sans que ça ait des conséquences. Ces personnes-là seront jugées et seront frappées par la colère de Dieu. La colère de Dieu n'étant pas une colère de rage. La colère de Dieu, c'est une sainte et presque paisible colère. C'est-à-dire, c'est une colère absolument juste. C'est le résultat des fautes et des offenses. Il y a un moment où Dieu juge et sa colère tombe. Ce jour-là, c'est quand Christ reviendra. Il y aura plusieurs jugements, il y aura la tribulation avec des fléaux terribles, avec l'antéchrist qui sera un jugement lui-même sur le monde, avec les gens qui vont s'entretuer, des guerres civiles à n'en plus finir, avec les démons qui vont arriver sur la terre et torturer les gens. Et cela... parce que ce sera le jugement de Dieu. Quand Christ reviendra, ce ne sera pas pour sauver le monde, ce sera pour juger le monde. Il est venu la première fois pour sauver. Il reviendra pour jugé. Et ceux qui sont des Nabals, eh bien, là, pour l'instant, tout se passe bien pour eux. Ils n'ont pas l'air d'être jugés. Ils disent, oui, Dieu, ben, montre-moi alors, viens, viens si tu veux me juger. Ou alors ils disent, mais moi, quand je vais mourir, je vais lui dire. Mais c'est être comme un Nabal, c'est être stupide, être insensé, être imbécile de dire une chose pareille. Et l'aveuglement, hein, spirituel conduit à dire des choses comme ça. C'est vraiment un aveuglement. Mais quand on entend la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on doit ouvrir les yeux et se dire, mais et s'il y a vraiment un jugement? S'il y a vraiment la colère de Dieu à la fin, si le jour du jugement, Dieu va me demander, qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as fait des dons que je t'ai donnés, de l'amour que je t'ai prodigué, des biens, de la santé, de tout ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu m'as remercié pour la terre, pour l'eau, pour la nourriture? Ou est-ce que tu as dit, c'est moi qui l'ai gagné, comme Nabal, hein? Je partage avec personne et surtout pas avec Dieu. Et Nabal va mourir, nous le voyons, non pas par la main de David. Ça nous amène à Abigaïl et nous sommes donc au verset 18 de 1 Samuel 25. Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Et elle ne dit rien à Nabal, son mari. Donc, Abigaïl fait ce que son mari aurait dû faire. C'est apporter des biens. Qu'est-ce que c'était pour lui tout ça? C'était rien. Il était immensément riche, cet homme. Et elle prépare tout ça, mais sans en parler à son mari. Alors là, quelqu'un de légaliste et pointilleux va dire, ce n'est pas bien. Cette femme n'est pas soumise à son mari. Elle ne parle pas à son mari avant de faire ça. Bon. Alors ça, c'est vraiment du légalisme, parce que cette femme est conduite par Dieu pour sauver son mari et sa famille, et sa vie aussi, hein, de la venue des hommes de David. Là, ils arrivent l'épée, le mort aux dents, prêts à juger cette famille. Et Abigail dit, il reste une solution. Et je pense que ça venait de Dieu. C'est de faire ce qu'ils ont demandé. On leur donne des choses et on plaide grâce. On demande grâce. Et c'est ce qu'elle fait. Parfois, un mari peut manquer de sagesse. Et le rôle de son épouse, c'est justement de l'aider dans ces situations, de suppléer parfois. La femme vertueuse en Proverbe 31 est une femme extrêmement active, extrêmement réfléchie, qui a plein de projets. C'est pas du tout une femme éteinte et serpillière ou boniche. C'est une femme qui entreprend et met tout pour que sa maison fleurisse, qu'elle soit bénie et pour que son mari soit bien vu aux portes, comme dit la Bible, hein. Aux portes, pourquoi? Parce que c'est là que se rendrait la justice dans les villes, au Moyen-Orient. Et donc, si le mari était aux portes, ça veut dire qu'il était un notable, quelqu'un qui officiait dans les jugements de la ville. Et donc, une femme vertueuse, c'était une femme entreprenante, une femme qui s'occupait bien de ses enfants, de sa maison, pour que sa famille soit bénie et que son mari soit bien vu. Là, elle va chercher à sauver la vie de sa maison. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, verset 19, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin, et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Effectivement. Et la justice qui allait s'accomplir venait de Dieu. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Donc là, terrible menace. Lorsqu'Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Et se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal. Donc là, il y a un jeu de mots. Hein. Méchant, Nabal, c'est imbécile, méchant, etc. Car il est comme son nom, Nabal, et son nom, il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyé. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. C'est Dieu qui a réclamé la justice contre Nabal, mais c'est Dieu qui va gracier la maison de Nabal. Le Dieu de justice qui réclame la punition du péché est aussi le Dieu de la grâce qui veut nous sauver. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Si Dieu avait voulu tous nous détruire comme il a fait au déluge, il aurait pu faire une deuxième fois. Il ne pouvait pas faire un déluge, il a dit « Je ne punirai plus la terre par un déluge » et il a mis l'arc-en-ciel comme preuve, comme signe. Mais il aurait pu nous détruire autrement, d'une parole. Mais Dieu nous aime, malgré notre impiété, notre impénitence, notre folie, il nous aime et il veut nous sauver. Et là, il va utiliser Abigaïl pour intercéder, pour plaider. Abigaïl, en fait, c'est quelque part le chrétien d'aujourd'hui qui vient se mettre entre le pécheur et Dieu. C'est aussi l'œuvre de Christ, hein, de venir entre nous et Dieu et de prendre la colère de Dieu sur lui. À moi la faute, dit-elle. Alors qu'elle n'a fait aucune faute, hein. Vous êtes d'accord? On ne voit pas ce qu'on peut lui reprocher. Mais elle dit « à moi la faute ». Christ, quelque part, a dit ça aussi, hein. « À moi la faute ». Et nous, en tant que sacrificateurs pour Dieu, en tant qu'intercesseurs, en tant que chrétiens, petit Christ, hein, nous sommes aussi là pour intercéder pour les perdus. Ils sont aveuglés par Satan, ils sont dans leur folie, complètement perdus. Mais nous devons prier pour eux, leur apporter la bonne nouvelle et leur dire tu es en train de te condamner, tu es en train de t'envoyer toi-même en enfer. Tu passes à côté du plan de Dieu, de la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que tu rejettes cette bonne nouvelle? Ça, pour moi, ça a toujours été un mystère. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai parlé à mes amis les plus proches, mes copains, etc. Et la plupart, ou très peu, ont cru au Seigneur. Et je me disais, mais quand ça se fait? Il ne voit pas. C'est merveilleux d'être sauvé, d'être pardonné. Et je plaidais avec eux, je leur disais, mais écoutez-moi. Mais il y avait un endurcissement. J'espère qu'entre-temps, ils se sont tournés vers le Seigneur, qu'ils ont rencontré d'autres chrétiens. Je prie toujours pour eux. Mais c'est notre rôle de chrétien, c'est le rôle de Christ, de plaider, d'arrêter la colère de Dieu, le bras de Dieu là. Et donc, elle vient, elle dit « Accepte ce présent, verset 27, que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » Elle reconnaît en David le roi divin, le roi qui est appelé par Dieu, qui ne fait pas de mal, et quand il agit, c'est par la justice de Dieu. Quelque part, elle dit, tu as le droit de nous juger, de nous tuer. C'est ton droit de roi venant de Dieu parce qu'on t'a offensé. Mais elle dit, moi, je viens plaider ma cause, je viens te dire, surtout, arrête ton bras et veuille nous pardonner. Si son mari avait une once de bon sens, il aurait dit, ma femme est merveilleuse. Moi, j'étais borné, j'étais stupide, comme un âne qui veut rien entendre. Et elle m'a sauvé la vie en allant voir David. On voit la foi d'Abigaïl au verset 30. « Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël. » Donc elle a cette foi et cette connaissance. « Mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. » David répond, verset 32, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle avait apporté et lui dit : « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, je t'ai favorablement accueilli. » Abigaïl arrive auprès de Nabal, son mari, et voici, il faisait dans la maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement ivre. Il est très possible que cet homme était alcoolique. L'alcoolisme rend méchant, rend stupide, rend violent, rend cruel et enferme la personne. Et lui, au lieu de se rendre compte qu'il avait offensé David et le futur roi d'Israël, lui, il fait sa fête en disant « C'est le jour de la tonte, des brebis, je suis riche, je vais m'enrichir encore plus, alors faisons la fête. » Mais le matin, elle ne lui dit rien. Le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, et c'est là encore, elle attend qu'il soit sobre pour lui parler. Elle aurait pu se dire « Bon, pendant qu'il est dans la joie du vin, je vais lui dire les choses, il va pas bien comprendre, et comme ça va passer, je vais dire « Écoute, j'ai donné des choses à David, hein, ne t'inquiète pas », et puis avec le vin passant, il aurait pu dire « Oh, bon, d'accord, j'ai oublié ». Non, elle attend qu'il soit sobre pour qu'il comprenne bien ce qu'elle va lui dire. Et là, elle lui raconte tout ce qui s'est passé, verset 37. « Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. » Nabal fait une crise cardiaque venant de Dieu, un infarctus massif. Je pense qu'il s'est tué lui-même et Dieu l'a tué aussi. Comme jugement. Il s'est tué parce que quand elle lui a annoncé ce qu'elle avait fait, hein, la Bible dit, il est devenu comme une pierre. C'est-à-dire, au lieu de s'humilier, de reconnaître la sagesse de sa femme et de reconnaître que David est le roi d'Israël et de reconnaître que Dieu est bon, il s'est enfermé dans sa folie. Et là, il n'y a plus rien à faire. Là, c'est tout en étant vivant sur la terre, vous êtes déjà condamné. Il y a des gens qui ne se repentiront jamais plus, jamais. Ils se sont fermés, leur cœur est comme une pierre. Et son cœur s'est tellement endurci qu'il en est mort. Mort de colère, mort de folie, mort d'orgueil. David apprit que Nabal était mort et il dit « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause ». Ce n'est pas David qui a jugé Nabal, c'est Dieu lui-même. Dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal, l'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. Alors là, on peut dire, dis donc, David, il ne perd pas de temps. Le mari est mort, ça y est, il va tout de suite épouser sa femme. Mais il faut se rendre compte qu'une femme veuve n'héritait pas forcément de son mari. Donc elle n'était pas à la tête de la propriété de son mari, c'était ses fils qui allaient hériter, un peu comme aussi hein, dans notre juridiction actuelle. Hein. Et une femme veuve ou une femme divorcée était en difficulté à cette époque-là, dans ces territoires-là et dans cette culture-là. Et donc elle avait besoin d'un mari. Et David, je pense plus par reconnaissance que par simplement coup de foudre, reconnaît que c'est une femme de Dieu, que Dieu l'a envoyée et il la prend pour femme. Le roi pouvait avoir plusieurs femmes. La Bible n'encourage jamais d'avoir plusieurs femmes. Elle dit que chaque homme est sa femme, hein, que chaque mari est sa femme. Et elle dit que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit que l'homme prenne sa femme et il n'a pas dit ses femmes. La polygamie est venue plus tard et c'est une déviation qui a causé beaucoup de souffrance aux femmes. Le mari, lui, il est content d'avoir plusieurs femmes, mais les femmes souffrent. Nous en voyons encore un exemple dans l'actualité. Dans notre société, on parle beaucoup de l'amour libre depuis mai 68. L'amour libre, c'est-à-dire, ce n'est plus de l'amour. L'amour libre, c'est « je fais ce qui me plaît ». Mais l'amour ne fait pas ce qui lui plaît. L'amour s'engage, le vrai amour. L'amour engage sa fidélité envers son compagnon ou sa compagne en disant « Je t'aime et je te suis fidèle. C'est toi que j'aime et je veux m'occuper de toi. On ne peut pas aimer humainement trois ou quatre femmes. Ce n'est pas possible. Voilà. On peut dire je les aime, on peut dire je m'occupe d'elles, on peut dire l'une après l'autre je les aime. Mais le vrai amour, c'est une personne et avec qui on reste fidèle, avec qui on construit. Et David a eu beaucoup de problèmes, hein, lui et puis ses fils après lui, et ne parlons pas de Salomon. Néanmoins, ici, c'était quelque chose qui se faisait, qui n'est pas choquant qu'un roi prenne cette femme avec lui. Et ils partent ensemble, et c'est ainsi que finit ce chapitre 25 avec la mort de Nabal et le salut d'Abigaïl. Il y a des leçons pour nous, des leçons de ne pas être un Nabal, n'est-ce pas ? D'être reconnaissant à Dieu. Des leçons de la part d'Abigaïl, une femme qui est loyale envers son mari, mais qui met Dieu en premier. Voilà. Dans le couple, on est loyal envers son conjoint. On lui dit la vérité. On lui fait confiance, on partage tout. Mais Dieu est premier. Et là, elle a mis Dieu en premier. Et elle a réussi à sauver sa vie et celle de son mari. Mais son mari était décidément trop loin de Dieu pour être sauvé. Et il a été frappé par Dieu lui-même. David, lui, est le type là du roi, du Messie qui juge et qui mérite le respect et l'obéissance. Nous adorons le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Il est notre Seigneur, il est notre roi. Et nous voulons le remercier, le suivre. Il nous protège, il nous sauve, et nous devons être reconnaissants. Et non pas dire, je suis sauvé, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le pardon, alors je peux faire n'importe quoi avec ma vie. Si Dieu m'a sauvé, c'est pour que je lui donne ma vie en retour par remerciement. Non, si Dieu m'a sauvé, c'est parce qu'il est bon et miséricordieux. Point. Mais s'il me sauve, c'est aussi pour que moi, j'ai une nouvelle vie avec lui, qu'il soit mon Père, mon Seigneur, et que je marche en suivant le roi, le vrai roi, qui est le Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide à appliquer ces choses et à vivre selon la parole de Dieu. On va terminer par la prière. Merci Seigneur pour l'Ancien Testament qui est plein de leçons spirituelles et qui préfigure le nouveau, ta venue. Seigneur, nous savons qu'un jour tu vas revenir juger le monde et que tu ne seras plus le petit Jésus, mais tu seras le Seigneur ressuscité qui va revenir en gloire. Et Seigneur, nous prions pour nos proches, pour notre prochain qui nous entoure, pour tous ceux qui sont endurcis, qui sont encore des Nabal, nous prions que tu leur ouvres les yeux, que tu nous aides à les atteindre avec la bonne nouvelle. Seigneur, nous te demandons de toucher leur cœur, que nous soyons comme Abigaïl. Je te prie, Seigneur, que nous ayons son bon sens, sa sagesse, sa foi, sa loyauté, son courage aussi. Et merci, Seigneur, de ce que ton Saint-Esprit nous donne les qualités de Christ, et je prie qu'elles grandissent en nous, que tu changes nos mauvais cœurs et que tu le remplaces par tes grâces. Et nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, l'étude est terminée. Merci de votre attention.